de la situation juridique de la femme d'après la législation musulmane, de Ernest Lehr. Chapitre 1er. Le droit musulman, même dans sa partie civile, a pour fondement unique le Coran. C'est donc directement dans ce recueil, un peu incohérent, de préceptes de morale, de religion et de jurisprudence, que nous sommes allés chercher les règles que nous essaierons maintenant de coordonner. On sait que le Coran, littéralement le livre, est une collection de chapitres que, d'après la croyance orthodoxe, Dieu envoyait du ciel par feuilles détachées et que l'archange Gabriel remit au prophète Mahomet. Pour les musulmans, le Coran est donc un livre d'origine divine et il est éternel. Tant qu'il y aura des sectateurs du prophète, c'est dans ces versets qu'il faudra chercher les principes des lois divines et humaines. Mais ce n'est pas une œuvre originale. On y retrouve une foule de préceptes empruntés tant à la loi hébraïque qu'au christianisme et à la religion des anciens perses. Il s'en faut de beaucoup que le Coran soit un code dans le sens moderne de ce mot, c'est-à-dire un recueil de lois complet et systématique. Non seulement les préceptes plus spécialement juridiques qui sont noyés dans un flot de prescriptions dogmatiques, morales ou simplement rituelles, mais encore plusieurs parties essentielles du droit civil y sont complètement omises ou à peine effleurées. Nous n'y trouvons, pour ainsi dire, aucune règle sur ce que les jurisconsultes modernes appellent le droit des personnes, la théorie de l'État et de la capacité juridique. Fort peu de règles sur le droit des choses et le droit des obligations, et à peine 6 ou 8 versets sur toute la matière des successions et testaments. La seule des 5 grandes subdivisions du droit civil qui soit l'objet de nombreuses dispositions est celle du droit de famille, comprenant la théorie du mariage et du divorce ou de la répudiation. Nous suppléerons autant que possible, en ce qui concerne les femmes, aux lacunes du Coran par la doctrine de ses interprètes tant sunnites que chiites. Chapitre 2e. En principe et au regard de Dieu, le Coran admet la parfaite égalité des deux sexes. Les hommes et les femmes qui s'abandonnent entièrement à Dieu, les hommes et les femmes qui croient, les personnes pieuses des deux sexes, les personnes justes des deux sexes, les personnes des deux sexes qui supportent tout avec patience, les humbles des deux sexes, les hommes et les femmes qui font l'aumône, les personnes des deux sexes qui observent le jeûne, les personnes chastes des deux sexes, les hommes et les femmes qui se souviennent de Dieu à tout moment, tous obtiendront le pardon de Dieu et une récompense généreuse. 33-35. Hommes ou femmes, ceux qui pratiqueront les bonnes œuvres et qui seront en même temps croyants, entreront dans le paradis. 4-123. Mais à un autre endroit, la supériorité de l'homme sur la femme est nettement formulée, et c'est bien elle qui se traduit dans toute la vie musulmane. Les hommes sont supérieurs aux femmes à cause des qualités par lesquelles Dieu les a élevées au-dessus d'elles, et parce que les hommes emploient leurs biens pour doter leurs femmes. 4-38. Au reste, il n'y a pas lieu de s'étonner de cet aveu, ni de chercher la véritable égalité des femmes dans une législation qui admet la polygamie. Cela seul constitue pour la femme un état de dégradation dont nulle déclaration religieuse et nulle formule déclamatoire ne peuvent la relever. Amer, dans son Histoire de l'Empire ottoman, chapitre 3, page 213, dit que l'Orient ne traite plus la femme comme une chose, mais qu'on ne saurait dire qu'il la traite déjà comme une personne. La femme, dans tout l'Orient, arrive de bonne heure à la majorité. D'après les règles musulmanes, elle est majeure dès qu'elle est formée, et au plus tard à 9 ans. Le fait de traiter avec une personne non encore parvenue à la majorité est condamné par la loi morale. Il rentre dans la catégorie des actes jugés répréhensibles, mais il n'entraîne pas, que nous sachions, la nullité de l'opération, du moins ipso facto. Chapitre 3e. Le mariage est considéré comme un acte que l'on doit souhaiter à tout musulman d'accomplir et qui procure surtout à une femme le plus grand avantage, car elle trouve dans son mari un appui et un soutien et son bonheur dans le contentement de son mari. Il y a 3 espèces de mariage. Premièrement, le mariage permanent. Deuxièmement, le mariage temporaire. Troisièmement, le mariage avec des esclaves. Nous ne nous occuperons ici que du principal des 3, du mariage permanent. Le mariage permanent, qui correspond en quelque manière à ce qu'on appelait en droit romain les justes noces, est subordonné à une foule de règles et de conditions. Avant la célébration du mariage, le futur époux doit s'assurer que la femme à laquelle il projette de s'unir est d'une naissance honorable, d'une conduite irréprochable et exempte de vices corporels qui la rendraient inapte à lui donner des enfants. Ce sont, sur ces points, les parents de la jeune fille que l'on interroge. Toutefois, chez les imamites, il est permis à l'homme de voir lui-même sa fiancée, c'est-à-dire de regarder sa figure, ses mains, ses cheveux, etc., mais sans toucher aucunement aux vêtements. Lorsque, par suite de cet examen personnel ou des renseignements qu'il a obtenus, l'homme a fixé son choix, il doit obtenir le consentement de la jeune fille. Ce consentement ne peut émaner que d'une fille majeure et en pleine possession de ses facultés intellectuelles. Il doit être donné de vive voix. On admet cependant que le silence de la jeune fille tient lieu de réponse affirmative et qu'elle exprime suffisamment son adhésion à la demande dès qu'elle l'accueille sans pleurer, sans s'enfuir ou sans se couvrir la figure de ses mains. Le père ne peut, par son testament, donner en mariage que celles de ses filles qui sont faibles d'esprit et qui dès lors ne pourraient pas disposer d'elles-mêmes. Lorsqu'un mariage est projeté entre deux personnes d'état social inégal, les tuteurs ont le droit d'y faire opposition. Enfin, pour que le mariage ainsi concerté puisse s'effectuer, il faut qu'il n'y ait point d'empêchement. La liste des empêchements au mariage est assez longue dans le droit musulman. Ils ont 6 ou 7 causes différentes. Premièrement, la parenté proprement dite. Deuxièmement, la parenté par la nourrice. Troisièmement, l'affinité. Quatrièmement, le fait que la femme est déjà mariée. Cinquièmement, l'existence du nombre légal de femmes. Sixièmement, l'anathème prononcé. Septièmement, le fait de n'être pas de la religion musulmane. Reprenons rapidement ces 7 causes. Premièrement, la parenté. Le Coran porte 4:27. Il vous est interdit d'épouser vos mères, vos filles, vos sœurs, vos tantes paternelles et maternelles, vos nièces. Ce qui, dans le langage juridique moderne, se traduirait ainsi. Le mariage est prohibé entre parents en ligne directe, ascendante et descendante, à l'infini, et en ligne collatérale, jusqu'au 3e degré inclusivement. Deuxièmement, la parenté par la nourrice produit des empêchements analogues à ceux qui résultent de la parenté proprement dite. Il est défendu d'épouser soit sa nourrice, soit sa sœur de lait. Les docteurs de la loi sont même fort rigoureux dans l'application qu'ils font de ce principe. Il n'y a qu'une ou deux sectes, par exemple, où l'on permette, malgré ce lien spécial, le mariage du père du nourrisson avec la mère de la nourrice ou le mariage avec la nourrice d'un oncle ou d'une tante. Troisièmement, l'affinité ou l'alliance. N'épousez pas les femmes qui ont été les épouses de vos pères. C'est une abomination et un mauvais usage. Toutefois, laissez subsister ce qui est déjà accompli. Il vous est interdit d'épouser les mères de vos femmes. N'épousez pas non plus les filles de vos fils, ni deux sœurs. Si le fait est accompli, Dieu sera indulgent et miséricordieux. Coran 4:26-27. Le mariage est donc prohibé entre alliés en ligne directe et jusqu'au 2e degré en ligne collatérale. Toutefois, l'empêchement paraît être, non pas dirimant comme dans les législations modernes, mais simplement prohibitif, puisque si l'on a passé outre, on peut compter sur l'indulgence de Dieu et par conséquent des hommes. De plus, on peut épouser la sœur de sa femme à la condition de commencer par répudier celle-ci. Le musulman est libre de se marier avec la femme répudiée par son fils adoptif. 33-37. On raconte, à propos de ce verset du Coran, que Mahomet avait adopté un jeune imyarite nommé Zayd et lui avait donné en mariage une femme du nom de Zeynep, Zénobie. Quelques années après, le prophète, se rendant un jour chez son fils, ne rencontra que Zeynep et fut tellement frappé de sa beauté qu'il ne put s'empêcher de s'écrier « Gloire à Dieu qui tourne les cœurs des hommes comme il veut !» Quand Zayd rentra chez lui, sa femme lui raconta la visite de Mahomet, sans oublier l'exclamation significative de l'homme de Dieu. Zayd comprit qu'il devait sacrifier sa femme à son bienfaiteur et la répudia. Mahomet fit d'abord quelques difficultés, puis intervint fort à point la révélation de l'article 37, et le prophète put désormais épouser sans scrupule de conscience la belle Zeynep. Quatrièmement, il vous est défendu, dit le Coran, d'épouser des femmes mariées, excepté celles qui seraient tombées entre votre main comme esclaves. c'est la loi de Dieu à votre égard. 4, 28. Cinquièmement, on ne peut épouser par un mariage permanent que 4 femmes. Le nombre est illimité pour les mariages temporaires et les mariages avec les esclaves, mais les mariages temporaires ne sont pas reconnus par les sunnites. Sixièmement, celui qui, ayant de sérieux motifs de douter de la fidélité de sa femme, la répudie en prononçant contre elle l'anathème, ne peut plus se réunir à elle. Le mariage est irrévocablement dissous et ne saurait être renoué. Septièmement, il n'est pas permis aux croyants d'épouser une personne d'une autre religion. N'épousez point les femmes idolâtres tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre idolâtre, quand même celle-ci vous plairait davantage. Ne donnez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand même il vous plairait davantage. Coran 2, 220. Les sectes des Chaflites et des Azémites sont moins rigoureuses dans cette prohibition lorsqu'il s'agit de femmes juives ou chrétiennes, et les chiites, dans ce cas, permettent expressément le mariage temporaire. Les filles majeures, et l'on a vu plus haut qu'on arrive à la majorité de très bonne heure, peuvent se marier sans le consentement de leurs parents. Les filles esclaves ont besoin de celui de leur maître. Avant de procéder au mariage, on fixe le montant de la dot, non pas, il faut bien s'entendre, l'apport de la femme au mari, suivant le sens vulgaire du mot dot, mais bien l'argent ou les objets de prix que l'homme donne soit à la femme, soit aux parents de la femme qu'il va épouser. « Assignez librement à vos femmes leur dot, » dit le prophète, « et s'il leur plaît de vous abandonner quelque chose de bon gré, jouissez-en à votre aise. » La dot arabe est donc analogue à la Morgengabe du vieux droit germanique. Le paiement en est constaté dans l'acte de mariage lui-même. Une fois l'union conjugale consommée, les époux doivent se conduire honnêtement à l'égard l'un de l'autre. Coran 2, 228. Car Dieu a établi entre eux l'amour et la tendresse. Coran 30, 20. Toutefois, il ne saurait être question dans l'islamisme de l'égalité que la doctrine chrétienne a établie avec tant de délicatesse entre le mari et la femme, et que les législations germaniques comprennent si bien lorsqu'elles font de la femme avant tout la compagne, die Genossin, de son mari. Le Coran accentue très énergiquement et à plusieurs reprises la supériorité du mari et le devoir d'obéissance passive de la femme. Les maris ont le pas sur leur femme. 2, 228. Les femmes vertueuses sont obéissantes et soumises. Vous réprimanderez celles dont vous aurez à craindre la désobéissance. Vous les relèguerez loin de vous, vous les battrez. Mais dès qu'elles vous obéissent, ne leur cherchez point querelle. 4, 38. Le mari est tenu de nourrir, de loger et de vêtir la femme selon son rang, mais il a, en revanche, la jouissance de tout ce qui appartient à la femme. Elle ne peut pas disposer sans le consentement du mari de plus d'un tiers de sa fortune, ni contracter valablement de quelque manière que ce soit. Si le mari n'a pas de fortune, c'est le devoir de la femme de pourvoir à l'entretien de la maison, c'est-à-dire aux soins du logement, à la cuisson du pain, à la préparation des aliments, etc. C'est au mari à lui en fournir les moyens par son travail. La femme ne peut être tenue, contre son gré, de se livrer à un travail quelconque pour enrichir le mari. Il est incontestable que le Coran recommande incessamment aux hommes d'user de douceur et de bons procédés à l'égard des femmes. Mais on sent qu'il n'a pour elles aucun respect, qu'il les ménage moins comme des créatures formées ainsi qu'à l'homme et à l'image de Dieu, que comme des objets agréables et utiles. Toute sa théorie du divorce, ou pour mieux dire de la répudiation, porte la trace de cette absence de respect et de cette méconnaissance absolue de la dignité et de la sainteté de l'union matrimoniale. Chapitre 4e. D'après le Coran, un mari peut, selon son bon plaisir, répudier une de ses femmes, puis la reprendre, puis la répudier encore, sans que la loi se soit autrement préoccupée des conséquences de semblables caprices, par exemple au point de vue des enfants. Si le divorce est fermement résolu, Dieu sait tout et entend tout. 2, 227. Il est impossible de dire plus clairement que le mari n'a de compte à rendre à personne. Et un peu plus loin, la répudiation peut se faire deux fois, sans autre conséquence que de reprendre simplement sa femme. 230. Si un mari répudie sa femme trois fois, il ne lui permit de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme et lorsque celui-ci l'aura répudiée à son tour. 229. C'est la promiscuité organisée. Le prophète se contente d'ajouter ce correctif, si c'en est un. Lorsque vous renvoyez votre femme, renvoyez-la avec générosité. Vous ne pouvez pas vous approprier ce que vous lui aviez donné. Celui qui agit ainsi agit contre lui-même. 2, 229, 231. Et ailleurs, un entretien honnête est dû aux femmes répudiées. C'est un devoir à la charge de ceux qui craignent Dieu. 2, 242. La loi impose au mari quelques règles de générosité, quelques bons procédés, quelques délais parfois, dans l'intérêt de la femme dont il lui plaît de se séparer. Mais nous n'avons trouvé nulle disposition qui mette un frein, ou du moins des conditions à son bon plaisir. Certaines législations protestantes se montrent, dans l'admission des motifs pouvant justifier le divorce, d'une facilité qu'on a souvent condamnée. On sait qu'il suffit parfois que l'un des époux rende la vie commune désagréable à son conjoint pour que même en l'absence de sévices graves et à plus forte raison de tout danger sérieux pour la vie ou l'honneur de ce conjoint, le divorce puisse être demandé et obtenu. Mais au moins, les codes prennent-ils soin de déterminer exactement les faits même secondaires qu'ils permettent d'invoquer. L'ivrognerie habituelle, le fait par le mari de ne pas entretenir sa femme selon son rang et ses besoins légitimes, etc. Dans la loi musulmane, rien de tout cela. Sit pro ratione voluntas. Il n'en faut guère plus, ce nous semble, pour juger une législation et une société. Des écrivains ingénieux ont essayé récemment de séparer les deux choses et de soutenir que les lois donnent souvent une idée imparfaite de l'état social, qu'en particulier la situation des femmes a été presque partout, dans l'Antiquité, moins déprimée qu'on ne le croirait d'après les textes législatifs. Nous ne contestons pas que la douceur des mœurs s'est pu quelquefois atténuer dans la pratique, la rigueur draconienne et l'injustice flagrante de certaines règles juridiques. La main de fer s'est parfois revêtue d'un gant de velours. Il faudrait avoir une faible idée du pouvoir séducteur de la femme pour nier qu'elle n'ait jamais su adoucir ses tyrans. Mais les lois ne sont pas faites pour les gens qui s'entendent, pour les femmes qui obtiennent et les maris qui accordent des concessions. La loi est un frein pour ceux qui, dans l'exercice de leur liberté naturelle, porteraient atteinte aux droits naturels ou légaux d'autrui. Là donc, où ce frein manque, on est fondé à dire que ces droits naturels ou légaux, dépourvus de toute sanction, n'existent que dans la mesure de la générosité ou de la modération de l'homme qui peut les fouler aux pieds. Une société organisée de telle sorte que les femmes doivent partager l'amour et la confiance de leur mari avec 3 ou 4 compagnes et peuvent se voir répudiées sur le moindre caprice du maître est une société où l'on n'a compris ni les droits ni la dignité morale de la femme. Si la femme est parfois heureuse dans de semblables conditions, c'est un hasard dont il n'y a pas à tenir compte. Le seul mot qui caractérise avec justesse la situation de la femme ainsi livrée à l'arbitraire, c'est le mépris de la femme. Et la circonstance qu'on peut, dans certaines hypothèses, prendre l'initiative de la demande en divorce n'infirme pas pour nous ce sentiment. Chapitre 5e. Ce mépris se manifeste d'une façon tout aussi claire dans le droit successoral musulman. Les femmes ne sont pas exclues des successions, mais elles y prennent une part de beaucoup inférieure à celle des hommes. Dieu vous commande, dans le partage de vos biens entre vos enfants, de donner aux garçons la partie de 2 filles. S'il n'y a que des filles et qu'elles soient plus de 2, elles auront les 2/3 de l'hérédité. S'il n'y en a qu'une seule, elle recevra la moitié. Coran 4, 12. De semblables dispositions ne sauraient se justifier, comme on le fait pour certaines législations européennes similaires, par la nécessité d'allouer une plus forte part aux fils, qui auront à leur tour la charge d'une nouvelle famille. On voit en effet que même une fille unique ne prend que la moitié de la succession paternelle. C'est donc bien le sexe qu'on a entendu placer à un rang inférieur. Nous devons cependant relever avec éloge les dispositions en faveur de la mère ou des épouses survivantes. Si le défunt laisse des enfants ou des frères, sa mère prend 1/6 de l'actif net de la succession, et s'il n'en laisse point, 1/3. Les épouses se partagent respectivement, dans ces 2 hypothèses, le 1/4 ou le 1/8. Mais il faut ajouter tout de suite qu'à l'inverse, le mari recueille la moitié ou le quart de la succession de sa femme. Coran 4, 12 à 15. La question de l'égalité des sexes au point de vue des successions est extrêmement délicate. Des jurisconsultes chrétiens éminents l'ont combattue au nom de certaines convenances sociales, et nous serions malvenus, surtout en Suisse, à traiter de peuple barbare ou méconnaissant la véritable position de la femme dans la société, tous ceux qui ont laissé subsister dans leur code certains privilèges successoraux au profit du sexe fort. Mais quand l'inégalité prend les proportions qu'elle a en Turquie, elle constitue une franche iniquité et ne fait que confirmer la pénible impression que produit l'ensemble des dispositions du Coran relatives aux femmes. Chapitre 6e. Jusqu'à présent, nous nous sommes placés avec intention sur le pur terrain du droit. Mais si nous demandons à des observateurs sérieux leurs appréciations sur les sociétés que ce droit, que cette religion a façonnées depuis 12 siècles, nos inductions seront pleinement justifiées. Parmi les Européens qui ont étudié la société arabe dans les contrées où elle restait pure de tout contact avec l'étranger, au cœur même du Diouf et du Nedjed, M. Palgrave est assurément l'un des plus sagaces et des plus bienveillants. Il n'apporte dans ses jugements aucun parti pris d'éloge ni de blâme, c'est le voyageur instruit, clairvoyant et intègre par excellence. Qu'on entende en quels termes il dépeint l'influence d'une législation démoralisante sur ces races primitivement si nobles et si admirablement douées. Les femmes et les enfants étant, selon Mahomet, une dangereuse tentation, toute la fleur des sentiments domestiques et de la vie de famille est flétrie par des mesures qui substituent des concubins à l'épouse. De plus, l'institution de la polygamie, la facilité du divorce, séparent les enfants de leurs parents et en font autant d'ennemis, de sorte que la maison d'un mahométan ne présente qu'un spectacle repoussant et plein de tristesse, tantôt celui d'une immonde promiscuité, tantôt d'une lutte fratricide qui rappelle les deux jumeaux fondateurs de la ville éternelle. D'après la pensée de Mahomet, trois choses, la religion, la guerre, les femmes, doivent consumer l'énergie, remplir l'existence entière de l'homme. De ces trois choses, les deux premières sont un devoir, la dernière un simple passe-temps. Un état social basé sur de tels principes n'admet d'autres plaisirs, d'autres divertissements que ceux qui flattent les instincts sensuels les plus vils. Les liens de la famille détruits par la polygamie et le divorce, l'amour profané, la femme ravalée du rang de compagne de l'homme pour la bonne et pour la mauvaise fortune à celui de passe-temps, voilà en quels termes un observateur attentif résume la situation, et cela dans le pays modèle de l'islam, le royaume d'utopie du Coran, l'empire wahhabite. Et il ajoute, dans les contrées soumises au mahométisme, l'esprit humain s'est souvent révolté contre la doctrine du Coran. L'antagonisme de la religion et de la conscience a donné lieu tantôt à d'admirables efforts, tantôt à de monstrueux excès. C'est la loi de toute réaction physique ou morale. Mais il est juste de reconnaître que dans les pays musulmans, ce qui mérite nos éloges est l'œuvre d'une tendance hostile à l'islamisme, tandis que les vices odieux qui trop fréquemment souillent les meilleures qualités natives sont l'inévitable résultat de la dégradation produite par un joug avilissant. Les hommes ne naissent pas avec les instincts de la brute, c'est l'éducation qui les leur donne parfois. Qu'ajouterions-nous à ces réflexions ? Ernest Allaire.